Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Sur AMC, bonsoir à tous, bienvenue, c'est l'Intégral Sport, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Olivier Giraud, membre éminent de la Dream Team RMC Sport, le patron de l'UNSS, à mes côtés. Salut Olivier.
Salut, ça va bien?
C'est lui qu'il faut contacter si vous cherchez un professeur de sport pour votre enfant, si vous voulez déterminer la discipline que votre enfant va pratiquer.
J'en ai plein.
Voilà, je vous donne son numéro, 06 86. Non, bon, j'arrête. Allez,
c'était le bon début.
Ouais, bah, bien sûr, j'ai même noté le 22.
Salopard.
06 86 Arrête 22. Pas. Et alors demain, je donnerai les deux prochains chiffres. Allez, à la une de l'Intégral Sport. La veille de match pour l'équipe de France féminine, les Bleus disputeront leur deuxième match de poule à l'Euro contre la Belgique demain soir à 21h. Les toutes dernières infos avec Jeannot Rességuier dans une seconde. L'actualité du Mercato, également le Barça qui s'active sur le marché des transferts. On va faire le point avec Loïc Tanzi. Et puis à 18h15, le Sénat a rendu son rapport concernant les incidents survenus au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions en mai dernier. Les sénateurs désignent des responsables et donnent des préconisations en vue de Paris 2024. Éclairage à venir avec Nicolas Pelletier. À 18h30, Olivier, tu as suivi ça. On va revenir sur cette journée historique sur les routes du Tour.
De
On
fou.
S'est régalé sur RMC cet après-midi, l'exploit de Jonas Vingegaard qui fait coup double, victoire d'étape et maillot jaune de leader, grosse défaillance pour l'invincible Pogacar et la deuxième place au général pour Romain Bardet. Puis un invité à 18h40, Mustapha Fall, 2m18, pivot de l'équipe de France de basket. Il réagira notamment à la naturalisation de Joel Embiid, la star de la NBA qui est désormais sélectionnable. C'est parti pour l'Intégral Sport. Confirmé pour accéder dès le deuxième match au quart de finale, ce sera l'objectif de l'équipe de France féminine demain à l'Euro. Évidemment, match contre la Belgique à suivre dès 21h sur RMC. Des joueuses de Corinne Diacre qui ont parfaitement lancé leur compétition. Victoire dimanche dernier contre l'Italie, 5-1. Il faudra donc confirmer demain soir. Jeannot Rességuier, le commentateur des équipes de France masculine et féminine, est avec
nous.
Salut Jeannot, comment ça va?
Ça va.
Bon, c'est toujours délicat d'enchaîner un deuxième match après une telle performance. Du coup, ça va être tout l'enjeu de la rencontre de demain.
Hein. Oui, c'est clair que quand on voit ce qu'elles ont réalisé, notamment sur la première période, et c'est sur ce sur lequel on a insisté énormément, sur la qualité de jeu, l'entame de match, la rapidité à laquelle elles ont réussi à ouvrir le score à la 8e minute, puis confirmer derrière avec Katoto après Gueyoro. On a vu tout simplement un collectif bien huilé qui a respecté le schéma de jeu, les principes mis en place par Corinne Diacre. Et après, il y a cette deuxième période, bon, qui a été complètement différente, où on a vu des Italiennes un peu vexées qui ont essayé de jouer différemment. Et la différence va se faire à ce niveau-là, dans la qualité du jeu qu'elles vont pouvoir produire contre la Belgique. On va en parler, qui est un ton en dessous de l'Italie. Et le fait de pouvoir, Olivier, garder physiquement un petit peu plus d'énergie pour aller atteindre l'heure de jeu et petit à petit jusqu'au troisième match contre l'Islande et arriver en quart de finale avec vraiment tous les atouts tant physiques que sportifs. Mais ce qu'elles ont démontré dès le premier match, c'est juste plutôt intéressant, et puis surtout avec de l'envie, avec une belle ambiance, et de montrer que cette équipe de France peut aller chercher cette finale qui est l'ambition de la sélectionneur Corinne Diacre.
Ça t'est arrivé, Olivier, de démarrer très fort comme ça une compétition internationale?
Tu sais quoi, dans tous les sports collectifs, c'est toujours le même schéma.
Ouais.
On dit toujours qu'il faut réussir le premier match. Tout simplement parce que ça t'enlève la pression. Le match qu'elles ont fait, c'est que t'envoies des messages aux autres, et puis ça te permet de déjà pouvoir calculer, faire souffler ton équipe. Ouais. Et tu sais, quand tu gagnes le premier match, on oublie souvent la fatigue nerveuse. Et les équipes qui devront se qualifier sont déjà en train de s'épuiser, alors que la France, pour l'instant, elle est tranquille dans ce championnat.
Justement, quelles sont les dernières infos, Jeannot? Est-ce qu'il y a des changements à attendre au niveau de la compo? Il y avait une surprise sur le premier match, en défense centrale notamment, c'est Tunkara qui a été titulaire
côté de Wendy Renard. Tunkara de l'Atletico qui a peu joué cette saison avec l'Atletico, qui ne jouera plus à l'Atletico, mais dont on ne connaît pas le club, la destination pour la prochaine saison. C'est vrai que ça a été la surprise, parce que on s'attendait tous à une association 100% lyonnaise avec Grigine Bock et Wendy Renard. Il y a eu une séance à huis clos hier où il a été été question de mise en place tactique. Elle est restée là-dessus, Corinne Diacre, sur l'association Tunkara avec Wendy Renard, même si en cours d'entraînement, il y a eu un retour à la logique, j'ai envie de dire, lyonnaise, avec Mbok et Renard. Sur le côté droit de la défense, il y a eu un coup Périssé, un coup Marion Torrent, mais Périssé a toujours cette longueur d'avance et on a le sentiment, en tout cas avec les infos que l'on a sur place avec avec Anthony Reich, en ce moment même, il y a l'entraînement qui a été un petit peu décalé. On a le sentiment qu'elle bougera pas l'équipe, okay. Donc elle va repartir avec le même 11 de départ. On verra, peut-être qu'on aura des infos ce soir par rapport à la séance à huis clos à Rotterdam. Mais voilà, on verra ce que va dire Corinne Diacre dans sa conférence de presse un petit peu plus tard. Mais il est, on a le sentiment que vu l'enjeu du match contre la Belgique, le fait oui. que ça ait bien fonctionné contre l'Italie. Tu gagnes contre la Belgique et juste avant, tu auras le résultat de l'Islande contre l'Italie. Et si l'Islande ne bat pas l'Italie, tu es en quart de finale et avec l'assurance de la première place.
En plus,
et
raison.
Tu connaîtras peut-être ce soir ton adversaire. Tout dépendra de ce qui va se passer entre, par exemple, les Pays-Bas et le Portugal. Logique. Donc, il y a une certaine logique pour que Corinne Diacre ne bouge pas son 11 de départ.
Et juste en un mot, parce qu'on a affronté l'Italie qui était a priori l'adversaire le plus fort de la poule, on a gagné 5 buts à 1. La Belgique, c'est en dessous des Italiennes sur le papier, en tout cas.
Oui, l'Italie, c'était 14e rang FIFA. La Belgique, c'est 19e. C'est la première fois qu'elle se qualifie dans une phase finale de l'Euro. Elles n'ont jamais connu une qualification en Coupe du Monde, même si elles peuvent encore. Hein, pour l'instant, elles sont meilleures deuxièmes dans leur groupe EF des qualifications. Il reste deux matchs, et notamment un match important contre la Norvège à jouer. C'est une équipe qui va être intéressante d'un point de vue tactique. Alors on les a vus accrochés par l'Islande. Elles ont fait un partout. Elles sont revenues dans le match alors qu'elles étaient menées au score. Mais c'est une équipe sur laquelle il va falloir compter sur certaines individualités. Je pense à De Kini, l'attaquante et buteuse. Je pense à Janice Kayman qui est passée par Juvisy, par Montpellier, qui est une joueuse de Lyon et qui n'a pas participé à la séance d'entraînement sur les dernières 48 heures. Donc il y a une vraie interrogation au niveau de la fatigue pour Yves Cernils, le sélectionneur des Red Flames. C'est comme ça qu'on le dit. Oui. On ne dit pas les Diables Rouges, okay. On dit les Flammes Rouges dans le football féminin. C'est juste une création de la fédération. Ouais. Moi, je me suis fait expliquer ça.
Rien à voir
pour féminiser le côté appellation des Diables Rouges. Donc ils sont partis sur les Flammes Rouges.
Ouais, ça marche bien en ce moment.
À ne pas confondre avec la Flamme Rouge du dernier kilomètre du Tour de France.
Voilà. Merci, Jeannot.
Petit clin d'œil à Christophe Cessieux et toute sa bande.
Évidemment, Jeannot, départ demain matin pour exactement. L'Angleterre et commentaire de ce match.
Lyon, Manchester, ouais. Sheffield, voiture, Rotterdam, tout va bien, c'est impeccable, on se régale.
Merci Jeannot, demain soir France-Belgique 21h, on vous rappelle que RMC c'est la radio officielle de l'Euro féminin 2022. On y va sur le Mercato Show.
Le Mercato Show
avec Loïc Tanzi ce soir, évidemment, Monsieur Mercato à RMC. Salut Loïc.
Salut à tous.
Alors Loïc, il y a un club qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, c'est le FC Barcelone.
Tout à fait.
Ils sont très très actifs les Barcelonais pour se renforcer. Là.
On va commencer par ce qui est officiel, ils ont annoncé aujourd'hui un accord avec Leeds pour le transfert de Rafinha. Vous vous souvenez de Rafinha, international brésilien, 25 ans, qui a joué à Rennes, qui est parti ensuite à Leeds sous Marcelo Bielsa, et qui donc va jouer la saison prochaine au FC Barcelone, montant du transfert entre 65 et 67 millions d'euros,
là, faut que
bonus
vous explique,
compris. Pour un club qui, soi-disant, n'a pas d'argent, le FC Barcelone, en fait, il y a des histoires de droits TV. Le FC Barcelone vend une partie de ses droits TV à des entreprises privées, à des fonds d'investissement. Du coup, ils récupèrent un petit peu d'argent et ça leur permet un peu derrière de pouvoir réinvestir sur le marché des transferts parce qu'ils vont investir encore le FC Barcelone après Touré, après Kessié, après Christensen.
On a aussi des joueurs libres, hein, ça.
Oui, mais c'est quand même un investissement en termes de prime à signature, de salaire, c'est un investissement quand même de la part du club. Ousmane Dembélé va rester. Négociation depuis le mois de janvier tendue entre le Français et Barcelone. Mais Xavi, le nouvel entraîneur de Barcelone depuis plusieurs mois déjà, a été vraiment très important pour que Ousmane Dembélé reste à Barcelone. Il va signer un contrat de 2 ans. Il a déjà repris l'entraînement individuel, mais il était présent avec ses coéquipiers aujourd'hui au centre d'entraînement. Donc pour Ousmane Dembélé, et enfin pour terminer sur Barcelone, ils vont faire une nouvelle offre au Bayern Munich pour Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui veut rejoindre Barcelone et seulement Barcelone, une offre qui est attendue normalement avant samedi pour 50 millions d'euros hors bonus. Donc il va y avoir des bonus en plus pour Barcelone. Et si jamais, je dis vraiment si jamais parce que je pense qu'il va finir à Barcelone, Lewandowski, si jamais Barcelone venait à ne plus pouvoir augmenter les offres et le Bayern refuser les offres jusqu'au bout, il y a Chelsea et le PSG qui sont toujours en embuscade. Okay.
Et tout ça, c'est validé par Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Ça lui pose aucun problème.
Ça fait quelques millions. Hein.
Ça fait beaucoup
d'argent. Plus de 100 millions pour les deux, pour Rafinha et Lewandowski.
Après, c'est qu'il y a de l'argent s'il le dépense. Hein, pour le coup, ils ont au début, ils pouvaient pas remettre deux joueurs dans. Vous savez qu'il y a la Liga, il faut pouvoir enregistrer des joueurs. Mmh. C'est compliqué. Il faut que vous soyez en adéquation au niveau financier. Ils pouvaient pas le faire au début de l'été. Ils peuvent le faire désormais. C'est que la Liga estime que financièrement, le FC Barcelone est OK. Ouais.
J'espère que c'est pas des tokens.
Ouais, c'est bon. On en a parlé hier. La crypto-monnaie, ouais, c'est pas le moment, effectivement.
Tu parlais de Nice en Inde hier, à penser pour le Cavite.
Oui, mais bah exactement.
Malheureusement,
ouais. Et toi, le Niçois, mon petit Loïc.
Qui va redescendre bien bas.
Ça te parle. Et ouais. On parlait de ça, évidemment, en rapport à l'élan béarnais, malheureusement, club mythique du championnat de France de basket, qui est rétrogradé pour l'instant en National 1. Quand tu entends ces montages financiers réalisés par Barcelone, tu les comprends? Comment tu réagis, toi, Olivier?
Bah, je les comprends parce qu'en fait, tout simplement, c'est un club qui vit aussi avec la réussite. T'es obligé de faire un grand championnat, de concurrencer le Real qui a été juste extraordinaire les années passées. Donc, t'es obligé de faire des investissements pour avoir un retour sur investissement. Espérons juste que on a connu le FC Barcelone qui était capable à une époque de ne pas avoir de partenaire sur son maillot tellement ils étaient puissants. Mmh. Aujourd'hui, de vendre une partie de ses actifs à des fonds d'investissement, c'est une autre période pour les grands clubs espagnols.
Ça c'est sûr, évidemment. 18h12 sur RMC l'Intégral Sport, on parle du Mercato Show, les infos Mercato de la journée. Et on va revenir en France parce que ça bouge sur la Côte d'Azur, mon petit Loïc. Mm-hmm. Monaco sur le point de faire signer un attaquant suisse d'ailleurs.
Ouais, deuxième recrue pour Monaco après Minamino en provenance de Liverpool pour 15 millions d'euros. C'est Brel Embolo, attaquant suisse qui jouait en Allemagne, qui va signer pour 12,5 millions d'euros du côté de l'AS Monaco.
Ça c'est fait.
Ouais. C'est fait. Il reste la visite médicale à passer. D'accord. La signature du contrat. Il a pas signé le contrat, mais l'accord est trouvé entre les deux clubs. Il va rejoindre Monaco maintenant pour passer sa visite médicale et ensuite signer un contrat de 5 ans avec l'AS Monaco. C'est une grosse signature encore pour Monaco, mais ça ne veut pas dire qu'il y aura départ offensif. En ce qui a du monde, Voland, Ben Yedder,
Boadou
notamment offensivement du côté de Monaco. Non, Paul Mitchell, le directeur sportif, a simplement voulu apporter un peu plus de profondeur pour Clément, parce qu'il y a quand même les barrages
évidemment
à jouer rapidement, puis éventuellement soit la Ligue Europa, soit la Ligue des Champions à jouer pour Monaco.
C'est une saison marathon qui attend l'AS Monaco, hein, on le disait, avec ses tours préliminaires de Ligue des Champions à disputer. C'est un recrutement qui peut se comprendre.
Ouais, qui peut se comprendre, mais j'adore les expressions des entraîneurs pour allonger la profondeur de banc. C'est pour pas dire à ceux qui pensaient être titulaires, parce que quand t'apprends que des joueurs arrivent au dernier moment, tout de suite, dans la tête, ça cogite très très vite. Hein. Mm. Donc c'est ce petit jeu qui peut poser problème, et on n'y pense pas souvent dans les vestiaires.
Et mine de rien, quasiment 30 millions d'euros déjà dépensés par
l'AS Monaco pour deux joueurs. Après, avec la vente de Tchouaméni aussi.
Oui, et l'argent de Mbappé aussi. Ils ont de l'argent, Monaco, mais ils réinvestissent.
Tout à fait. Parlons de Nice. On parlait de la Côte d'Azur. Nice, qui est toujours à la recherche du successeur de Benitez, hein, qui est parti jouer aux Pays-Bas. Il est parti libre de l'OGC Nice. On pousse encore pour Yann Sommer, justement, un autre Suisse.
Hein. Oui, il y a une première offre qui a été faite il y a quelques jours. Ils en ont fait une nouvelle aujourd'hui. Et là, on est vraiment dans la fin des négociations. Si tout va bien, Yann Sommer sera le prochain gardien de l'OGC Nice. 33 ans, international suisse. 74 sélections, quand même, avec la Suisse. Lui aussi, il arrive de Gladbach, en Allemagne. Donc c'est une grosse signature, gardien d'expérience pour l'OGC Nice, pas très cher, a priori en dessous de 5 millions d'euros le transfert.
Ah oui,
c'est un bon coup. Pour l'instant, c'est un bon coup, lui qui a été entraîné par Lucien Favre.
Évidemment, ça a joué certainement dans son choix, Lucien Favre, qui a pris la succession évidemment de Christophe Galtier sur le banc de l'OGC Nice. On voulait parler du Celtic Glasgow aussi, pourquoi? Parce qu'il s'intéresse à un joueur de la formation parisienne, un joueur qu'on a entreaperçu la saison dernière, mais qui est ciblé donc par les...
Le championnat de France va certainement perdre encore pas mal de ces jeunes joueurs. On a vu Gourna qui a signé officiellement aujourd'hui à Salzbourg en provenance de Saint-Etienne. Un autre joueur de la génération 2003, mais qui joue pas beaucoup pour le coup au Paris Saint-Germain, c'est Édouard Michu, qui s'entraîne même à part du groupe professionnel, qui a repris l'entraînement seulement hier, et lui qui est courtisé par le Celtic Glasgow, qui va faire une offre qui est pas encore arrivée, mais qui va faire une première offre de 2,5 millions d'euros au Paris Saint-Germain. A priori, ça c'est pas suffisant pour convaincre le PSG, qui aime bien aussi en plus mettre des pourcentages à la revente.
Est-ce que le joueur a envie d'y aller, tu le sais ça?
ça fait partie des pistes intéressantes pour le joueur. Ouais. C'est pas la seule piste. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés par Michu, mais ça fait partie des pistes qui peuvent être intéressantes pour lui.
Tu vois que Paris arrive à vendre.
Arrive à vendre et surtout maintenant pourcentage à la revente, c'est pratiquement automatique. Hein.
Ouais, bien sûr. Quand un joueur si jeune, il est né en 2003, c'est automatique dans les au moins 20% parce qu'au moins le club s'assure que si jamais il explose derrière, il y a un retour sur investissement. Comme Rafinha qui est parti à Leeds, les Rennes va toucher 5 millions d'euros quasiment dans le transfert.
Exactement. On parlait de jeune joueur, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros talent du centre de formation du Stade Rennais, qui est toujours extrêmement courtisé par le Bayern. Ça se tend un petit peu et le Bayern revient à la charge donc pour Mathys Tel à Rennes.
Hein. Oui, le Bayern a fait une deuxième offre, première offre, elle était officielle, on l'a vu, on l'a connue, on l'avait dévoilé sur RMC, 7 millions d'euros plus 10 de bonus, première offre quasiment à 17 millions d'euros quand même.
Capitaine de l'équipe de France U17.
Exactement, 2005, on parlait d'un jeune 2003 avec Michel. Lui, il est né en 2005, Mathys Tel.
Donc déjà à la retraite, Olivier, en 2000 d'euros.
Complètement.
17 millions d'euros bonus compris la première offre. Il y a une deuxième offre qui est arrivée, on n'a pas le montant exact, mais on sait qu'elle est supérieure à 20 millions d'euros bonus compris de la part du Bayern Munich. Et a priori, Rennes va refuser ou en tout cas pas donner suite à cette offre-là une nouvelle fois pour Mathys Tel.
En général, le Bayern, quand il commence à faire des offres comme ça pour des joueurs aussi jeunes, il se trompe pas souvent.
Ça, c'est vrai.
Hein, donc Rennes a raison d'attendre parce que ça fait monter le fait que le Bayern s'aligne sur ces sommes-là. Bah, il peut peut-être valoir plus.
Mais surtout, ça veut aussi dire que si le Bayern met autant d'argent, c'est que c'est un joueur qui sera considéré comme important dans l'effectif du Bayern Munich la saison prochaine.
Si tu veux le découvrir, Mathys Tel, tu écoutes le podcast Scouting. C'est le premier numéro de Scouting, évidemment, à retrouver sur les applis d'RMC, les plateformes de téléchargement. Mathys Tel, talent du Stade Rennais, plus jeune joueur de l'histoire à avoir signé pro, hein, plus jeune qu'Eduardo Camavinga. Donc voilà, c'est vraiment un talent formé au Stade Rennais. Dernière info, tiens, toujours en Bretagne, parlons de Lorient avec un joueur important qui va rester. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les supporters lorientais, c'est Enzo Lefebvre.
Enzo Lefebvre.
Il était courtisé, mais il choisit de rester. Alors.
On parlait des 2003-2005, l'une en 2000 pour Enzo Lefebvre, encore un jeune joueur, 22 ans.
Envie de nous faire mal, hein.
Ouais. Enzo Lefebvre, 22 ans, formé à Lorient, qui était courtisé par des clubs allemands, par l'OGC Nice aussi, notamment, et qui va rester à Lorient. Il a annoncé à son coach, à son président, il va poursuivre au moins une saison avec Lorient. Il est sous contrat jusqu'en 2024 avec Lorient, et ça négocie une prolongation en ce moment d'un ou deux ans, et ça pourrait devenir, donc s'il accepte la prolongation, le joueur le mieux payé de l'effectif à Lorient.
D'accord. T'es né en quelle année, toi, Loïc ?
90.
Et toi, Olivier ?
Je ne dirais pas. Tu sais, cette manière de faire sur Lorient, c'est assez malin parce que prolongation de contrat, ça sent la revente beaucoup plus cher.
Bah, évidemment. S'il le garde un an et s'il fait encore une grosse saison,
Ouais. D'autant que Lorient jouera l'ultra.
Mais c'est plutôt intelligent pour le faire aussi, hein, faire une saison peut-être à Lorient avec
sûr de jouer,
plus d'ambition.
C'est pas
peut-être
toujours bien passé pour le faire.
Ouais, peut-être que Lorient, on le voit sur le marché. Bon, ils n'ont pas encore fait signer beaucoup de joueurs, mais en tout cas, les joueurs qu'ils essaient sur le marché, ça montre un peu plus d'ambition de Lorient cette année, peut-être en Ligue 1.
Merci Loïc pour toutes ces infos. Avec juste plaisir. Une officialisation en Angleterre qu'on voulait vous donner, c'est Raheem Sterling qui quitte Manchester City pour aller à Chelsea. Ouais. Voilà,
donc, gros transfert.
Un gros transfert pour lui. Ça avait été un gros transfert quand il avait quitté Liverpool pour aller à City. Là, il quitte City pour aller à Chelsea. Encore une grosse opération. Et Sterling qui va porter le maillot des Blues la saison prochaine. Merci Loïc.
Avec plaisir.
Toutes les infos à retrouver sur rmcsport.fr. Olivier, dans un instant, on va revenir sur le rapport rendu par le Sénat. Rapport qui concerne les incidents survenus au Stade de France lors de la dernière finale de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool, évidemment à Saint-Denis. Des sénateurs qui, tu vas le voir, pointent les responsables et qui donnent des préconisations en vue de Paris 2024. Nicolas Pelletier est déjà là. Il va tout nous dire. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h21 sur RMC l'Intégral Sport avec Olivier Giraud ce soir jusqu'à 19h. Dans un quart d'heure, on va revenir sur l'événement de l'après-midi, hein, cette étape mythique du Tour de France que vous avez suivi sur RMC. La victoire d'étape et le maillot jaune pour Jonas Vingegaard, coureur danois de la Jumbo-Visma. Deuxième du général désormais, Romain Bardet, qui termine troisième de l'étape et qui est donc deuxième du classement général. Et le grand battu de la journée, Tadej Pogacar, victime d'une défaillance dans l'ascension finale dans le col du Granon. Pointer les responsabilités, c'était donc l'enjeu du rapport qui a été rendu ce matin par les sénateurs concernant les incidents survenus au Stade de France avant la finale de la Ligue des Champions. Nicolas Pelletier vient nous en parler. Salut Nico.
Salut à tous.
Alors, ce qui était important, on avait déjà quelques infos, mais là, ça a été confirmé par ce rapport rendu public par le Sénat. Le Sénat confirme les défaillances des autorités françaises dans ce dossier et dans cette affaire de cette finale.
Oui, on a eu un rapport de 14 pages présenté par François-Noël Buffet et Laurent Lafon. C'était les deux rapporteurs de ce rapport qui a été réalisé après les incidents du Stade de France. C'est à signaler que le Sénat était l'institution la plus rapide à réagir pour organiser ces auditions, avec toutes les auditions qu'on a pu avoir depuis le 28 mai, la finale de la Ligue des Champions. Alors, ce rapport, il retrace en fait le déroulé de la soirée. On a le timing minute par minute dans ce rapport de 14 pages. Et bien évidemment, à la fin de ce rapport, on a une liste de recommandations. Il y en a 15, je crois. Et il pointe particulièrement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le préfet de police, Didier Lallement.
Voilà, alors pour des raisons différentes, hein, ce qu'on n'a pas apprécié chez le ministre de l'Intérieur, ce sont ces déclarations justement pour justifier l'action de la préfecture de police de Paris. Il a dit que des hordes de hooligans s'étaient présentées avec des faux billets, ce qui a été contredit depuis.
Alors on est très loin des 30 à 40 000 supporters qui avaient été annoncés juste après la finale de la Ligue des Champions. L'analyse faite par le ministre Darmanin n'était pas la bonne, c'est ce que dit Laurent Lafon ce matin lors de la conférence de presse. Et donc, en fait, quand on pointe du doigt le ministre de l'Intérieur, ce qui en découle, c'est le préfet de police, parce qu'il est sous sa responsabilité, un échec imputable aux décisions de la préfecture de police. Donc, en fait, les supporters de Liverpool, qu'on avait très rapidement accusés juste après la rencontre, ne sont pas du tout responsables de cette soirée chaotique au Stade de France le 28 mai dernier. Mais ce sont bien deux responsables, la préfecture de police et le ministre de l'Intérieur, et aussi on va voir qui a la Fédération Française de Foot et l'UEFA.
D'ailleurs, certains groupes de supporters de Liverpool ont salué un message clair de la part des sénateurs français, mais ils réclament
des excuses pour cette histoire. Des autorités.
Ton avis là-dessus, Olivier, parce que la question qu'on a envie de poser à Nico, c'est est-ce qu'il y aura des conséquences? C'est bien de rendre un rapport, mais est-ce qu'il peut y avoir des conséquences?
Enfin, alors, vraiment, en fait, on en discutait à la rédaction en haut, on se dit qu'en fait, ce rapport, c'est très bien de l'avoir fait. Il a été très rapide et les conclusions sont respectables. Mais en fait, c'est juste un rapport qui pointe du doigt une mauvaise organisation.
Voilà.
Il n'y a pas une conséquence terrible qui peut se passer après ce rapport.
Donc Gérald Darmanin ne sera pas du tout inquiété.
Normalement, non. Voilà. Et surtout, là, ce soir, il a annoncé devant le Sénat qu'il allait prendre en compte toutes les recommandations faites par les sénateurs. Mais en fait, quand on regarde les recommandations faites par les sénateurs, ce sont toutes des recommandations qu'un responsable, un manager d'un événement comme ça peut se faire de lui-même. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des recommandations du Sénat pour avoir tout ça.
On avait compris.
Bon, les responsabilités sont pointées, mais il n'y aura pas de conséquences. C'est un petit peu ce qui est.
Il n'y aura pas de conséquences.
En tout cas,
l'expérience, elle est brutale. Ça, il faut l'assumer. Elle est brutale. Faudra se poser la question de prendre des grands événements au dernier moment, hein, peut-être les laisser à d'autres.
Être organisé évidemment.
Il a raison, Olivier, de prendre au dernier moment et surtout en plus on est en pleine période de présidentielle, les policiers pensent à autre chose, il y a plein d'événements à sécuriser et donc en fait cette finale arrive en plein milieu d'une séquence très chaotique quoi.
Ouais. Un enchaînement aussi de choses repenser. Tu sais à quoi ça va servir pour les Jeux Olympiques? Oui, ça va servir à une chose parce que de toute manière les Jeux Olympiques, moi je suis pas inquiet. Parce que la manière de sécuriser les Jeux Olympiques est toujours très 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 particulière. Avant que tu puisses arriver à un guichet, t'as un long parcours du combattant avant d'arriver. C'est-à-dire que eux, depuis très longtemps, depuis les attentats à Atlanta, depuis énormément de choses,
bien sûr,
les Jeux Olympiques, c'est sécurisé au plus haut, c'est la compétition la plus sécurisée. Mais oui, des dysfonctionnements comme une grève où tu bloques une entrée, et ben tout ça va falloir y penser. Ça sera une expérience. Mais c'était important de rendre ce rapport et que les sénateurs le rendent. Après, de là à donner des préconisations, je pense que les organisateurs de grands événements le font depuis très très longtemps et ça n'arrivera plus.
Bah, les principales préconisations, c'est sur ce système de billets infalsifiables. Hein. C'est là que
c'est ça, ils veulent
que Paris 2024 fasse la différence.
Un système pour rendre obligatoire le recours à des billets infalsifiables, exiger de l'organisateur qu'il informe en temps réel les détenteurs de billets. Alors ça peut être aussi pratique sur le téléphone. Vous pouvez rentrer par cette zone-là ou par cette zone-là. Ça peut être pratique aussi. Renforcer la formation des stadiers, là, c'est un problème au niveau national parce que c'est plus de la sécurité privée. Ça devient un vrai problème en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et il y a aussi cette ligne, cette recommandation numéro 13 où il y a plus de discussions entre les associations de supporters et les organisateurs. Ça, c'est demandé depuis des années par les associations. On verra si c'est mis en place dans les prochaines semaines.
Et puis, il y a un autre dossier qui pouvait inquiéter, mais le Sénat s'est voulu rassurant sur l'éventuelle, enfin la prochaine cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sur la Seine. Hein. Pour eux, il n'y a pas d'énormes problèmes de sécurité à organiser cet événement.
Les deux rapporteurs qu'on a eu ce matin nous ont dit que la France était totalement capable d'organiser ces Jeux Olympiques. En fait, la question se pose plus, par exemple, sur l'aspect des stadiers, de la sécurité privée, de la police fluviale. Il y a plein de petits points comme ça qui sont encore très flous et on se dit les moyens, il va falloir les mettre dans certains points, dans certains domaines, trouver des stadiers, c'est très compliqué aujourd'hui. Il en faut plus de 20 000 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, rien que pour cette cérémonie sur la Seine où il y aura plus d'un million de personnes sur les bords de Seine.
Et ça va être dur à organiser ça quand même, Olivier, hein, cette cérémonie-là.
Bah, quand tu veux faire du jamais vu, de l'exceptionnel, bah, automatiquement, il y a des complications quand tu vois la complication juste d'organiser dans les rues de Paris un marathon. Le nombre de barrières qu'il faut, le nombre de sécurité privée, c'est un gros défi. Et souvent, le truc, c'est que les jeux sont notés à l'orée de la cérémonie d'ouverture ou pas.
Oui, ça donne le ton.
Oui. Ou pas. Ouais. Pékin, c'était too much, c'était hallucinant. Londres a rétrogradé un petit peu. Paris ne doit pas oublier une chose, c'est que la ville de Paris elle-même est une attraction.
Oui, ce que tu disais hier.
Je le disais hier et je le répète.
Le monument impressionnant en plein cœur de Paris, que ça va être quoi qu'il arrive, fantastique visuellement.
On le rappelle, il y a un point très important, c'est le 25 juillet, c'est Emmanuel Macron qui reçoit la ministre des Sports et tous les représentants de Paris 2024 pour aussi parler de la sécurité, ça sera un sujet abordé.
Merci Nicolas Pelletier d'avoir été là. Évidemment, toutes ces infos sont à retrouver sur rmcsport.fr. Bonne soirée,
Bonne
Nico.
Soirée.
18h28 sur RMC, la suite de l'Intégral Sport. Dans un instant, on va retourner sur les routes du Tour de France, revenir sur cette étape mythique, la 11e étape et la victoire au col du Granon de Jonas Vingegaard qui s'empare du coup du maillot jaune de leader. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h34 sur RMC. Olivier Giraud est là jusqu'à 19h. Ensuite, ce sera l'after tour avec Christophe Cessieux. Et puis nous, dans 5 minutes, on aura un invité, Mustapha Fall, pivot international français qui a été médaillé d'argent aux Jeux de Tokyo, évidemment, avec l'équipe de France. Il a été convoqué par Vincent Collet pour le stage de préparation qui démarre dans quelques jours en vue de l'Euro de basket qui démarre le 1er septembre. 18h34, c'était une journée à couper le souffle, une étape mythique. Le tracé de cette 11e journée sur le Tour a été taillé pour une explication entre favoris. Elle a eu lieu avec un scénario renversant en haut du col du Granon. Le grand vainqueur, c'est Jonas Vingegaard. Coup double pour le Danois de la Jumbo-Visma qui remporte l'étape et qui s'empare du maillot jaune de leader. Tadej Pogacar, qui semblait invincible, est le grand perdant. Évidemment, il a subi une défaillance dans l'ascension finale. Il est désormais troisième du général à 2 minutes 22 de Vingegaard. Et on souligne également l'énorme performance pour Romain Bardet, troisième de l'étape du jour et désormais deuxième du classement général. Ah là, je sens que le druide Cyril Guimard s'est régalé. Et là, c'est le cas de le dire. Salut Cyril.
Oui, bonsoir. On s'est tous régalés. Hein,
ah ouais, c'est clair.
Mais ça, vous savez, quand on se trompe de date au calendrier, c'est ce qui peut se passer, puisqu'en fait, aujourd'hui, ça a été véritablement le 14 juillet, avec 24 heures d'avance sur les routes du Tour de France. Bon, le 14 juillet étant demain, et qu'il y a aussi demain une étape
incroyable
aussi, est-ce qu'il y aura la même bagarre? Et puis bon, ils auront peut-être un petit peu mal aux jambes, certains favoris.
C'est
vraiment, on a vécu là une étape de légende, oui, il faut bien le dire. Oui.
Est-ce que le Tour est totalement relancé, selon toi?
Ah, il est totalement relancé. Par rapport à l'idée qu'on s'en faisait, où on disait tous, et moi le premier, je vois pas comment on peut faire vaciller Pogacar. C'est pas possible. Il a une sérénité, une facilité, une fluidité. On se dit, les autres vont être là pour faire valoir. Alors, on avait beau, bien sûr, évoquer la puissance de l'équipe Jumbo. Eh bien, on l'a vu aujourd'hui. Elle existe. Et en plus, ils ont respecté à la lettre un vrai plan de bataille. Et ils ont fait sauter Pogacar. C'est beau. C'est magnifique, mais la course n'est pas finie pour ça.
Avant de parler justement de la performance exceptionnelle et de ce coureur de talent qu'est Jonas Vingegaard, est-ce que pour toi la défaillance de Tadej Pogacar est surtout liée justement à la tactique de la Jumbo-Visma qui a voulu le faire exploser dès le début en fait?
Alors l'objectif a été atteint, c'est au moins une chose.
Ça c'est vrai.
ils l'ont fait exploser. Peut-être pour la première fois, je l'ai vu ne pas courir juste, surtout...
Quand il a repris, quand il est réaccéléré, alors qu'il n'avait pas besoin.
Sur le Galibier, où il en a remis deux ou trois, je pense qu'il s'est un tout petit peu enflammé. Alors, c'est vrai qu'on dit toujours la meilleure défense, c'est l'attaque. Mmh. Oui, mais...
pas systématiquement.
Quand ça marche.
Ouais.
Quand ça marche, puisque celui qui gagne a toujours raison. Mais c'est surtout le tempo qu'il a imposé sur la fin du col du Galibier, où il aurait peut-être dû rester un peu plus... peut-être un peu plus économe de ses forces. Mais bon, le jeu, comme je dis toujours, le jeu ne demande que force. Mais je ne suis pas certain que dans la dernière ascension, il n'a pas eu aussi quelques petits problèmes d'alimentation. Ça fait aussi partie de la course. Hein.
Parlons du champion du jour, tout de même, Vingegaard. On en parlait depuis le début du tour. On savait qu'il était très en forme. On savait que avec Roglic, on avait là deux énormes chances de podium. C'est les deux principaux outsiders par rapport à Pogacar. Coureur de talent, est-ce que c'est un potentiel vainqueur de Tour de France dès cette année?
Oui, puisqu'il a déjà fait deuxième l'an dernier. Donc, en ayant fait deuxième l'an dernier, si on peut pas être un potentiel vainqueur de cette année, que dire du troisième ou du huitième ou du quinzième? Donc oui, et puis il a démontré aujourd'hui, oui, ce qu'il a démontré aujourd'hui sur la dernière ascension, sur les différentes attaques, mais surtout lorsqu'il est sorti, il a mis tout le monde d'accord, il a mis tout le monde en rang, et puis il a fait l'écart, et pas des petits écarts. Hein, si vous regardez le classement général, le deuxième, on va en parler aussi, est à 2 minutes 16, et Pogacar se retrouve à 2 minutes 22. Si vous rajoutez les 40 secondes d'avance qu'il avait, il a pris donc pratiquement 3 minutes à Pogacar, et ça sur 4,5 km. Donc le garçon a de la valeur, et il va falloir en tenir compte. Est-ce que Pogacar pourra renverser? Point d'interrogation.
Cyril, et quand même la vraie victoire de la Jumbo, c'est, t'as vu, on se posait la question si une équipe où il y a que des patrons, à un moment, ils s'entendraient. Ouais. Ce qu'ont fait Van Aert et Roglic, c'est exceptionnel quand même pour Vingegaard.
Oui, complètement. Et ça, c'est quelque chose d'important, et qui est important d'ailleurs dans le résultat, puisque la sanction, ça a été le résultat qu'on a obtenu avec trois coureurs qui, ont accepté. Mais je pense qu'il avait accepté avant le départ du Tour, tout du moins en fonction des différentes dispositions, différents événements. À partir du moment où le plan avait été lancé, chacun avait un rôle bien précis, et les égos disparaissaient derrière, j'ai envie de dire, l'égo de l'équipe. Mmh. Et qu'on savait qu'on ne pouvait gagner contre Pogacar qu'à la seule condition d'être véritablement unis, d'être une véritable équipe commando. Et aujourd'hui, ils ont été une équipe commando.
Et on félicite le travail du directeur sportif qui a su prendre les décisions. Voilà, qui a dit désormais c'est ça et pas autrement.
Ouais, mais la chute de Roglic a accéléré un petit peu le temps.
Juste un mot, Cyril, parce que le temps presse et on va te retrouver à 19h pour débriefer justement cette magnifique journée qu'on vient de vivre sur les routes du Tour. Saluons la performance de Romain Bardet, troisième aujourd'hui derrière Vingegaard et Quintana, et deuxième au général à 2 minutes 16 de Vingegaard et devant Pogacar désormais, s'il vous plaît.
Eh bien oui, c'est une très très belle performance. Sur le dernier de Giro, il était déjà dans cette position au moment où il a été contraint à l'abandon à mi-course,
à mi-Giro,
et on pouvait penser que Romain Bardet pouvait aller chercher la gagne sur le Giro. Malheureusement, il a eu un gros problème de santé, il a été contraint à l'abandon. Eh bien, il est tout simplement en train de confirmer son Giro du début de saison, et en train de s'affirmer comme un prétendant. Alors, à la victoire, j'ai pas envie de le dire.
Maillot à poids.
Mais au moins... Au moins sur le podium, qui serait quand même une superbe performance.
Et il y a combien de temps qu'on n'a pas pris le maillot à poids un Français?
Oh, la colle.
Depuis Raymond Bardet. Okay. Depuis Romain Bardet, dans le Tour 99.
Parce que dans ses commentaires d'après-course, il disait très clairement qu'il fallait qu'il rattaquait dès demain.
Eh oui, demain ça sera dur.
Demain est un autre jour.
Exactement.
Puis demain, on peut s'attendre à tout. C'est le 14 juillet.
Exactement.
Ça va péter de partout.
C'est sûr. Briançon Alpes d'Huez demain, magnifique étape à suivre sur RMC avec Cyril. Vous allez la présenter cette étape à partir de 19h. Merci le druide.
Merci.
À salut. Tout à l'heure en tout cas. Magnifique
tout
journée sur les routes du Tour. Ça va continuer dès demain. 18h41 sur RMC. Il est là Olivier, notre invité, Mustapha Fall, 2m18.
Eh ouais.
Pivot de l'équipe de France.
J'arrête pas de voir des mecs qui touchent le plafond depuis une semaine. Deuxième sanction.
On prendra pas une photo alors pour qu'il reste assis.
Écoute, je l'ai fait exceptionnellement avec Rudy. Je vais le refaire. Comme bon, ça fera rire ma fille.
Allez, on l'accueille dans un instant. Stephen Brun va également nous rejoindre. Tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
18h45 sur RMC dans un quart d'heure l'after. Tour autour de Christophe Cessieux, retour sur la magnifique victoire de Jonas Vingegaard, deuxième place au général pour Bardet. Le grand battu du tour, c'est Tadej Pogacar, grand battu du jour, pardon, puisqu'il est désormais troisième au général. On le disait, Olivier, on a un invité de taille dans l'intégral sport, Mustapha Fall, pivot de l'équipe de France, joueur de l'Olympiakos qui est en studio avec nous. Salut Mousse.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Tu profites des courtes vacances là parce que c'est vrai que ça va redémarrer très vite avec la prépa pour l'Euro qui arrive dès le 1er septembre avec l'équipe de France.
Ouais, je me suis reposé un peu et là j'ai déjà réattaqué les entraînements.
Ah déjà
ouais. Oui, j'en profite pour me reposer.
Tu t'es remis en route. On va en parler également avec Stephen Brun, monsieur basket sur RMC qui nous rejoint. Salut Steve.
Salut les amis, salut tout le monde.
Il y a le cigale et tout, non mais t'amuses toi.
Non mais c'est un faux
écoute,
fou,
il a mis la radio.
Écoute, je suis sur un petit bateau là, je suis très bien. Bon.
Ah, c'est beau la vie, c'est beau, bravo.
C'est beau, c'est très beau.
Bon, Mousse, revenons sur ta magnifique saison. Déjà, l'été dernier avait été chargé, deuxième quand même, médaille d'argent olympique avec ce tournoi fantastique, cette défaite face à Team USA en finale. Très courte pause, reprise avec l'Olympiakos, c'est là aussi une super saison, champion de Grèce et puis Final Four de l'Euroleague, c'était top.
Non, c'est sûr que ça a été une année pleine de succès. On avait été très fort au niveau des JO parce que vraiment les conditions elles étaient pas top avec le Covid et ce genre de choses.
Ouais.
On a dû vraiment se focaliser sur l'objectif. On a réussi à ramener une belle médaille donc on en est satisfait. Après c'est sûr qu'avec l'Olympiakos c'était ma première année dans une grosse équipe comme ça avec un passif pareil.
Mm.
Donc c'était sûr j'ai tout fait pour m'imposer dès le début et puis la saison elle a déroulé. Et on a eu pas mal de succès aussi.
Je te posais la question justement, juste avant qu'on reprenne. Est-ce que tu as des regrets sur ce Final Four? Je rappelle que vous perdez contre l'Anadolu Efes, qui est double tenant du titre désormais, parce qu'ils ont gagné la finale face au Real. Et tu me disais, bah, ils t'ont pas trop impressionné finalement sur cette demi-finale.
Non, après, ils ont gagné, donc ils ont fait ce qu'il fallait.
Ouais.
Mais voilà, quand tu perds à une possession, souvent, tu repenses à chaque détail qui ont fait tourner le match, aux choses qu'on aurait pu faire mieux.
Mm.
Et après, je pense qu'ils nous ont eu à l'expérience. Hein. Ça, c'est des équipes, elles ont été là l'année d'avant. Nous, on est une équipe avec pas tant d'expérience que ça, mis à part peut-être deux joueurs. Donc voilà, je pense qu'ils nous ont eu à l'expérience et ils ont gagné l'Euroleague, donc bravo à eux.
Tu y étais, toi, Stephen, justement, sur le Final Four d'Euroleague. Tu te rappelles de cette demi-finale, justement, entre l'Olympiakos et le club turc?
Je me rappelle très bien et j'avais une vraie frustration. Alors je sais pas si Mousse là aussi, c'est que Mousse il avait quasiment pas joué du quatrième quart temps, donc j'avais été très frustré par lui. Mais moi j'étais au milieu des supporters de l'Olympiakos et je voudrais que Mousse il nous décrive cette atmosphère qui est fantastique. Les supporters de l'Olympiakos, t'as vécu un match 5 justement pour aller au Final Four contre Monaco à Belgrade. Il y avait 12 000 spectateurs sur 18 000 dans la salle. Et est-ce que t'as vécu des moments exceptionnels en termes d'ambiance au Pirée cette saison?
Ouais, bah franchement, il y en a eu plus d'un. Déjà, le premier match contre le Pana, là, ça a été complètement en feu.
Ouais.
C'était le retour dans le championnat grec puisqu'on avait été out pendant 2 ans. Donc, ouais, c'était un match attendu. Il y a eu la coupe finale de Coupe de Grèce. Il y a eu le Final Four d'Euroleague. Il y a eu Monaco aussi, le match 5. Donc, ouais, franchement, les supporters du début à la fin, ils ont été vraiment, vraiment incroyables.
C'est une autre ambiance qu'à Poitiers, quoi.
Bah, c'est une autre ambiance que partout en France.
Ouais,
Mousse, ces supporters-là, est-ce qu'il y a des excès, c'est-à-dire qu'ils sont avec vous dans la victoire, mais est-ce que dans la défaite, ils sont durs ou ils sont toujours avec vous?
Honnêtement, je pense qu'ils sont durs dans la défaite, mais comme on a beaucoup gagné cette année, j'ai pas eu l'occasion de connaître
c'est
ça.
Tout.
Mais en fait, si tu gagnes, tout va super bien se passer. Et maintenant, je pense que par exemple, Pana, ils ont connu une saison totalement différente de la nôtre, quoi.
Eh oui. Alors, on te le souhaite pas, mais tu pourras peut-être le connaître parce que t'as prolongé l'aventure, justement, avec l'Olympiakos. T'es engagé avec eux jusqu'en 2025.
Ouais, jusqu'en 2025. Et oui, j'espère pas connaître ça pendant les années prochaines.
C'est sûr. Nous, on s'est intéressé à l'Euroleague à travers le parcours de Monaco, qui nous a surpris. Hein. Monaco, ça devient l'outsider principal de la Betclic Elite avec l'Asvel, évidemment. C'était une finale fantastique qui s'est jouée en prolongation du dernier match. Monaco a fait une saison de rêve. Qu'est-ce que tu as pensé d'eux lorsque tu les as affrontés, parce que vous les avez croisés justement dans cette Euroleague, hein.
C'était une équipe très talentueuse. Ouais. Ils jouaient très physique. Bon, comme pro, de toute façon, les équipes, elles sont toujours physiques.
Mais beaucoup vraiment, de talent individuel. Hein.
Beaucoup de talent individuel. Ouais. C'est vrai que le collectif, il n'était pas top. Mais ils mettaient vraiment des shoots très compliqués. Toute la série, au début, on se disait, bon, c'est un match, ça ne va pas durer, mais ça a duré tout le temps. Donc vraiment, c'était une série vraiment, vraiment fatigante émotionnellement. Quand même.
Ouais, tu vois, donc Monaco a tenu la dragée haute à l'Olympiakos. C'est quand même quelque chose, Olivier.
Non, ce qui m'impressionne surtout, c'est que le niveau européen, c'est la question que je voulais poser à Mousse, on ne cesse de dire que le niveau européen augmente au point que pratiquement aujourd'hui, il pourrait faire concurrence à certaines équipes NBA. Est-ce que tu vois ça, toi, sur ce niveau? Parce que c'est un vrai championnat, on rappelle, 32 matchs. C'est ça?
Non, c'est 34
matchs, voilà.
C'est sûr que le niveau augmente. J'avais vraiment l'impression que le niveau augmente. Maintenant, comparé à la NBA, je peux pas vraiment juger, parce que déjà c'est pas les mêmes règles, c'est pas le même basket, donc c'est compliqué de juger.
C'est une façon de jouer complètement différente.
Voilà. Athlétiquement, bien sûr, qu'ils sont au-dessus, mais après, quand on regarde les matchs NBA en termes de qualité de jeu, de fond de jeu, c'est pas très poussé non plus. Donc, je peux pas vraiment comparer les deux types de basket.
Pour en revenir à l'équipe de France, c'est vrai que là, il va y avoir une compète tous les ans. Vous avez fait les Jeux, il y a l'Euro cette année, il y a la Coupe du Monde qui arrive l'année prochaine. Cet Euro qui se prépare, tu vas attaquer la prépa le 29 juillet, on le disait, en région parisienne avec les autres, du 1er septembre, d'ailleurs à partir du 1er septembre sur RMC. Comment tu la vois, cette compète? Il y aura pas mal d'absents dans l'équipe de France. C'est l'occasion pour certains d'avoir plus de temps de jeu, de se montrer. C'est comme ça que tu la prends, ou est-ce que tu te dis quand même, on est vice-champion olympique et nous, on va y aller, quoi qu'il arrive, pour aller chercher l'or?
Non, mais nous, on y va pour amener une médaille. Clairement, l'objectif principal, c'est l'or. Maintenant, après, c'est sûr qu'on a des absents. C'est sûr que l'équipe va devoir se trouver des ajustements pour combler assez.
Pas de Gobert, pas de Batum, par exemple.
Si Gobert, il est là, c'est pas de Nando. Pas de Nando, pas de Batum.
Ouais, tu vas suivre.
Donc, c'est sûr que oui, c'est des cadres de l'équipe. Donc, c'est le capitaine et le vice-capitaine.
Ah, exactement.
C'est sûr que va falloir les remplacer. Maintenant, on y va avec nos armes et puis on va voir ce que ça va donner.
Stephen, t'es confiant pour l'Euro qui arrive pour les Bleus?
Le bateau, c'est trop éloigné. Non, mais avec cette médaille d'argent incroyable, la première hein, du basket français aux Jeux Olympiques, quand on aborde l'Euro, Rudy le disait.
Deuxième, excuse-moi. Avec c'est Laurent Sierra.
Excuse-moi, Laurent Sierra, j'étais là en plus.
J'étais là.
Ah, oui. Petit USA. Mais on n'envisage qu'une seule place sur cet Euro.
Oui, on veut l'or. Tout le monde veut être sur la première du podium. Maintenant, en plus, on a un statut à maintenir. On sort d'une très belle compète. Il faut qu'on surfe sur ça. Et à chaque compète, de toute façon, il faut viser l'or. C'est l'objectif.
Alors, il y a un phénomène qui arrive dans cette équipe de France. Un joueur qu'on a peu vu à cause de blessures à l'Asvel cette saison, c'est Wembanyama. Tout le monde en parle depuis des années. C'est vrai que c'est un énorme talent. On parle de lui pour la future draft. Pourquoi pas être très bien placé justement dans les années à venir en NBA. Il va découvrir le groupe France avec toi justement le 29. Comment tu le vois? Comment tu vois son ascension? On rappelle son choix de carrière. Il a décidé de quitter l'Asvel pour rejoindre le club parisien. Donc, Boulogne-Levallois. Qu'est-ce que tu penses de ce choix de carrière et qu'est-ce que tu penses du garçon, tout simplement, toi, Mousse?
Déjà, je pense que c'est un garçon à très fort potentiel.
Ouais.
Ah, il est très longiligne.
Il fait ta taille, d'ailleurs.
Plus grand que moi.
Ah, il est plus grand, même.
Ah, il est plus grand que moi.
Et plus fin, aussi.
Ah, c'est normal, avec l'âge, il prendra ça. Ouais. Là, pour l'instant, il a pas mal de blessures, il n'est pas encore développé musculairement. Mais non, il a un très fort potentiel. Ça, c'est sûr que c'est rare qu'on voit quelqu'un comme ça, aussi grand, capable de shooter et bouger comme il le fait. C'est sûr que s'il arrive à rester en bonne santé et à bien se développer, j'arrive pas à voir sa limite pour le moment.
Ouais. Et puis l'autre sujet d'actualité aujourd'hui, ça a été officialisé, c'est la naturalisation. Ça y est, Joel Embiid, superstar de la NBA, joueur de Philadelphie, des Sixers, est désormais français. Il est donc éligible à l'équipe de France. Stephen, toi, tu avais sorti les infos il y a quelques semaines. Tu savais que c'est un joueur qui intéressait justement l'équipe de France. Là, il est français. Donc on imagine qu'on pourrait le voir. Bon, pas à l'Euro, parce que là, c'est sûr qu'il n'y sera pas. Mais pourquoi pas la Coupe du Monde l'année prochaine? Embiid sera sélectionnable, Stephen.
Ouais, alors c'était un intérêt mutuel, hein. Bien sûr, la France avait donné son aval et Joël Embiid, c'était lui qui était demandeur justement pour rejoindre cette équipe de France. Alors c'est valorisant, bien sûr, pour de pouvoir accueillir un joueur comme ça. Il s'est fait opérer du pouce, il a été beaucoup blessé cette saison, donc c'est sûr que cet été on le verra pas. Il y a la perspective de voir la Coupe du Monde, mais je crois que le vrai objectif pour Joël Embiid, c'est d'être médaillé olympique en 2024 à Paris. Deux problématiques sur le cas Joël Embiid. Il y a le côté éthique, c'est qu'aujourd'hui la France est une nation forte du basket européen et mondial, et qu'on se dit pourquoi avoir besoin d'un garçon comme ça quand on est déjà vice-champion olympique. La formation française, elle excelle dans le monde entier, c'est peut-être la meilleure derrière les Américains. Les équipes de jeunes font des médailles chaque été. On est champion olympique, on sort un paquet de garçons qui vont en NBA ou qui vont en Euroleague, donc on peut se poser des questions là-dessus. Moi je fais pas partie de l'équipe de France, donc un garçon comme Mousse Fall ou Vincent Poirier qui sont peut-être impactés par ça, on va avoir un avis différent. Moi, d'un œil extérieur, je suis très excité. Bien sûr que je suis très excité parce qu'on a affaire à ce qui se fait de mieux au monde sur le thème sur le poste de pivot avec Nikola Jokic. C'est un garçon qui a terminé meilleur marqueur de la NBA. Moi, ça m'excite de le voir sous le maillot bleu. Ça m'excite de le voir avec Rudy. Ça m'excite de le voir avec Mousse. Ça m'excite de le voir avec Vincent. Ouais. Est-ce que ça peut nous permettre d'être champion olympique 2024 à Paris? C'est une arme en plus. Oui. Alors. Maintenant, aujourd'hui, il est français. Il est sélectionnable. C'est à Vincent Collet de prendre la décision de savoir si ce qu'il intègre dans l'équipe de France.
Stephen.
Maintenant, avec Joël Embiid, un passeport français, ça me met en œil que Vincent Collet ne fasse pas appel à lui.
Évidemment. On a la chance donc d'être avec Mustapha Fall qui va être directement concerné si Embiid est appelé, puisque vous évoluez au même poste. Comment tu prends la nouvelle, toi, Mousse, du coup?
Moi, de toute façon, je suis pas un gars qui me projette. Donc, pour l'instant, je me prends vraiment pas la tête avec ça. Après, s'il est là, c'est sûr qu'il faut le prendre. C'est un joueur qui peut être MVP en NBA tous les jours. Donc, c'est sûr que le voir avec Rudy Gobert, ça peut vraiment être quelque chose de grand. Surtout que Vincent aime jouer grand. Il peut jouer avec deux postes 5 en même temps. Embiid est capable de shooter. Donc, même les postes 4 aussi seront impactés par cette nouvelle.
Donc tu penses à l'équipe avant tout, quoi. Alors que tu es concerné, hein, t'es voulu au même poste que lui, tu peux perdre du temps de jeu.
C'est sûr que je suis concerné, mais maintenant, niveau éthique, comme il a dit, ça peut poser problème parce qu'on fait jamais ça. De l'autre côté, les règles sont les règles. Donc, on joue selon les règles. Donc, c'est dur de se prononcer, d'avoir un avis tranché. Maintenant, s'il est là, en tout cas, faudra faire avec, et c'est la loi du sport. S'il y a plus meilleur que toi, il joue, et puis c'est simple.
Et sportivement, ça ferait une raquette hallucinante, Joël Embiid et Rudy Gobert, évidemment, deux stars de l'NBA. Je vois le regard noir d'Olivier Giraud avant, pour conclure sur ce sujet.
Écoute, tout le monde sait ce que je pense de ça, hein. Tu sais, on se bat tous les jours dans nos championnats respectifs pour que il y ait de plus en plus de joueurs français qui jouent, de jeunes joueurs. Donc, on a mis des règles en place pour qu'il y ait 40% de joueurs formés localement, tu vois, parce qu'on peut pas interdire à la formation française. Et ça va à l'encontre de tous les combats qu'on fait tous les jours pour que la formation française elle soit à un très haut niveau. Et si tu fais ça sur les jeunes et dans ton championnat, et qu'au final ton équipe de France, et ben même si tu as le droit de le faire éthiquement, ou en balle par exemple, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que les autres pays le font, mais nous éthiquement, on a toujours fait le choix de pas le faire.
Je comprends ton avis. Il y en a qui voient que le côté sportif et d'autres plutôt le côté éthique. En tout cas, Joël Embiid est désormais sélectionnable puisqu'il a été naturalisé français. Mousse Fall, merci beaucoup d'avoir été là.
Pas de problème.
On te souhaite une bonne prépa, surtout le 29 juillet et puis dès le 1er septembre sur les parquets pour l'Euro qui va se disputer, évidemment, qui sera à suivre sur RMC. D'ailleurs, c'est un peu éparpillé. Allemagne, Géorgie, Italie, République tchèque. Hein, voilà, donc vous allez voyager sur 7 euros. Merci Mousse.
Merci
d'être passé, c'était très sympa. Merci Olivier d'avoir été là. Merci à Stephen Brun qui profite des cigales.
Merci,
ça passe très
vous,
vite.
Les amis.
Passe très vite une heure. Merci Stephen, à très vite. Et à 18h58, on repasse la parole à Christophe Cessieux, revenir sur cette journée historique qu'on a vécue sur les routes du Tour, hein, Christophe.
Ah oui, c'est vrai, c'est un régal total durant toute cette étape, une étape qui va vraisemblablement entrer dans la légende. On va y revenir dans un instant avec Cyril, Jérôme et Pierre-Yves. On est encore sous le coup de l'émotion et en plus, eh bien, il y a un changement de leader. Vingegaard va-t-il pouvoir garder ce maillot jaune jusqu'aux Champs-Élysées? C'est tout l'intérêt de la suite de ce Tour de France. On en parle dans un instant jusqu'à 20h dans l'After Tour.